Orient Presse, Olivier Dallage.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Orient Presse. Comme chaque semaine, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine écoulée au Proche-Orient, c'est-à-dire cette semaine encore essentiellement à Gaza, avec trois journalistes, trois confrères spécialistes de cette région. Avec moi en studio, Mohamed Zawi, correspondant de la radio algérienne. En ligne de Beyrouth, la correspondante permanente de RFI, Diane Galliot. Et avec nous également au téléphone, Gilles Paris, spécialiste du Proche-Orient au journal Le Monde.
Orient Presse sur RFI.
Au cours de cette troisième semaine de conflit à Gaza, le chiffre des 1000 morts a été franchi mercredi. Bombardements, morts, plaintes diplomatiques, tractations diplomatiques, voilà ce qui a marqué l'essentiel de la semaine. On a le sentiment, Gilles Paris, qu'il y a une intensification de l'action militaire israélienne à l'approche d'un probable cessez-le-feu.
Oui, ça paraît clair. On a vu les bombardements sur des cibles de plus en plus délicates à justifier côté israélien parce que tout simplement la puissance de feu est très forte. C'est un peu comme ce qu'on avait vécu à la fin de la guerre contre le Hezbollah en juillet-août 2006 lorsque l'armée israélienne, juste avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, avait multiplié les opérations. Évidemment, la situation est différente et on peut imaginer, interpréter l'épilonnage de ces dernières heures à Gaza comme le point final à une démonstration de force de l'armée israélienne, la conclusion d'une opération qui n'avait pas été déclenchée, il faut le rappeler, par un grand nombre de victimes civiles israéliennes. C'est plutôt la conjonction à la fois de la volonté de l'armée d'effacer le revers, le demi-revers de cette opération contre le Hezbollah en 2006 et conjonction du calendrier politique israélien.
Est-ce que c'est seulement le calendrier israélien? Je veux dire, l'avènement d'Obama est aussi une sorte de date limite pour l'opération israélienne?
C'est un ensemble, bien entendu. C'est évidemment un ensemble. Pour ce qui est des Israéliens, il y a quand même cette dimension politique qui est importante, mais qui joue à double tranchant, puisque si un cessez-le-feu durable s'installe à partir des prochains jours, ça donnera le temps à l'opposition, Benjamin Netanyahou, qui a été très silencieux jusqu'à présent, de dresser le procès, le bilan critique de cette décision politique et militaire.
Mohamed Zawi, vous êtes le correspondant à Paris de la radio algérienne, donc vous suivez évidemment ce qui se passe à la fois en France et au Moyen-Orient. J'aimerais avoir un petit peu le sentiment que vous avez sur l'état de l'opinion algérienne. On sait qu'au Maghreb, il y a eu beaucoup d'émotions qui s'est manifestées à l'égard de la situation à Gaza. Est-ce que c'est même de nature éventuellement à poser des difficultés aux régimes en place comme ailleurs dans le monde arabe?
Je pense que l'opinion et les manifestations, ils sont internationales. Ils sont un peu partout dans tous les pays du monde. Malheureusement, dans les médias, ici en France, on regarde pas ce qui se passe en Israël. Il y a un mouvement de contestation, de paix, de juifs israéliens qui manifestent contre...
Il est quand même beaucoup plus limité que pendant la guerre du Liban. Hein.
Mais je ne sais pas comment on peut juger ça, parce que on n'a pas d'informations à part dans quelques canaux d'information française qui donnent l'information de ces rassemblements d'Israéliens qui sont pour la paix, qui sont contre cette guerre. Et maintenant, je peux aborder la question de la manifestation en Algérie. Une chose, ces manifestations, ils ne sont pas organisées par le pouvoir en place. Ils ne sont pas organisés par des partis politiques. Ils sont spontanés. Moi, j'ai un neveu dans une ville à Médéa et qui me disait qu'ils sont sortis. Il y a un renouvellement au niveau de tous les pays arabes. Ce n'est pas uniquement les islamistes ou des courants politiques qui manifestent, mais c'est le peuple.
Donc il y a un embarras pour les courants politiques organisés pour canaliser ce mécontentement.
Je ne sais pas, peut-être aussi ces événements-là vont renforcer quelque part aussi en France et ailleurs et en Algérie ou l'islamisme. Ça, c'est certainement.
Alors, on va continuer sur ce volet opinion publique en se tournant vers le Liban avec Diane Galliot. Diane, notamment le Hezbollah a organisé plusieurs manifestations monstres depuis le début de ce conflit il y a 3 semaines. Et pourtant, les quelques roquettes qui ont pu être tirées depuis le sol libanais sur le nord d'Israël, le Hezbollah a tout de suite pris ses distances en disant « c'est pas nous » et il n'y a rien qui permettait de penser qu'il y aurait l'ouverture d'un front libanais. Quel est l'état de l'opinion et quelle est la part du jeu politique interne, sachant qu'il y a des élections qui se tiennent dans quelques mois au Liban ?
C'est très compliqué. D'abord, pas de manifestations monstres, contrairement à ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays arabes. Ici, des manifestations, oui, des manifestations quotidiennes, des manifestations dans les camps palestiniens, des manifestations dans la rue, des manifestations devant l'ambassade américaine, notamment, des manifestations devant les Nations Unies, mais pas des manifestations monstres, des manifestations, je vous le disais, presque chaque jour, avec des milliers de manifestants, certes, mais rien à voir avec ce qui s'est passé au Maghreb, avec ce qui s'est passé dans d'autres pays arabes. Une certaine retenue, certainement des gens qui regardent ici au Liban chaque jour ce qui se passe à la télévision, des gens qui sont très très motivés par ce qui se passe, mais avec une certaine distance malgré tout, des gens qui vous disent, que ce soit dans les milieux chrétiens, dans les milieux musulmans, qui vous disent nous ça nous rappelle ce qui s'est passé chez nous en 2006, on est très concernés, on est proche de ce qui se passe à Gaza, les femmes et les enfants qui sont massacrés par ces bombes israéliennes, ça nous rappelle ce qui s'est passé chez nous, on veut pas revoir ça, mais on ne veut pas non plus qu'il y ait un second front qui recommence au Liban, on ne veut pas que ce soit de nouveau une guerre qui s'exporte au Liban. Donc voilà un petit peu l'état de l'opinion. Deuxième volet, d'accord pour qu'il y ait un second front qui s'ouvre, d'accord pour soutenir ce qui se passe à Gaza, mais un front arabe. Notamment quand j'ai été faire du reportage au sud, on nous dit oui, et notamment dans les rangs des gens qui sont proches du Hezbollah ou qui sont pour ou qui se disent carrément du Hezbollah, oui, on veut bien qu'il y ait un second front qui s'ouvre, mais cette fois-ci pas simplement chez nous au Liban, qu'il y ait un second front qui soit un front, cette fois-ci, de l'ensemble des États arabes. On ne veut pas que ce soit simplement le Liban qui soit concerné. Donc pour répondre à votre question sur les roquettes, le Hezbollah a démenti, le Hamas a démenti, non, c'est pas nous. Alors, est-ce qu'ils étaient au courant, est-ce qu'ils n'étaient pas au courant, ça je ne saurais pas vous le dire. Le Hamas comme le Hezbollah ont démenti que ce soit eux qui aient tiré ces roquettes. Est-ce qu'ils étaient au courant, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils disent, nous on ne veut pas qu'il y ait ce second front qui s'ouvre, et ils ont mis beaucoup de distance vis-à-vis de tout cela. Alors, est-ce que c'était des mouvements palestiniens plus marginaux ou est-ce que c'était des djihadistes, on ne sait pas. En tout cas, ils ont mis beaucoup de distance vis-à-vis de cela, et les populations ne veulent pas rentrer dans ce jeu. En tout cas, et il semble qu'il y ait une volonté de ne pas rentrer dans cette surenchère.
Gilles Paris, il y a eu beaucoup de mouvements diplomatiques, on l'a dit, pour essayer de négocier un cessez-le-feu. Mais l'attitude des capitales, notamment occidentales, à l'égard de ce conflit, était marquée par une certaine prudence, on va dire ça comme ça, jusqu'à ces derniers jours. Et ce qui a fait changer un petit peu les choses, qui a provoqué des réactions très fortes, indignées, c'est à partir de mercredi, jeudi, le bombardement des hôpitaux de l'UNRWA, de la tour dans laquelle se trouvaient des médias, de cibles internationales et civils. Et on a même entendu M. Ban Ki-moon, qui habituellement ne se départit jamais d'une certaine placidité, dire qu'il était horrifié.
Oui, moi ce qui me frappe, c'est presque le contraire. Ce qui me frappe, c'est plutôt le silence, y compris depuis ces bombardements, parce que ce qui est frappant dans cette histoire, c'est le silence assourdissant américain. Et en fait, à part la mission de Nicolas Sarkozy, il y a eu une sorte d'immobilisme. On a l'impression que toutes les capitales sont restées interdites devant la puissance, la violence de l'offensive israélienne, à laquelle personne ne s'attendait. Immobilisme aussi peut-être devant la détermination des autorités israéliennes, renforcée par un consensus qui est aussi inhabituel en Israël. On a eu des images de victimes civiles, on voit le déséquilibre qui est par nature entre d'un côté une armée sophistiquée et de l'autre côté les miliciens. Et en Israël, ça n'a rien éveillé. Donc je crois qu'il y a eu l'absence de ce qui marche d'habitude. Lorsqu'on avait vu par exemple en 1996 le bombardement d'un refuge des Nations Unies qui avait tout de suite créé une dynamique diplomatique,
là,
au contraire, l'opération israélienne, de mon point de vue, est restée sous un vase clos.
Alors il y a une exception, c'est le Parlement européen, où on voit dans tous les groupes pas mal de protestations montées, notamment du fait que c'est intervenu à peine quelques jours après que l'Union européenne a proposé de rehausser le statut israélien vis-à-vis de l'Union européenne.
Ça, c'est le Parlement qui s'était opposé avant l'opération à Gaza à rehausser cette relation, parce que avant l'opération, il y avait déjà le blocus. On l'oublie, évidemment, un événement chassant l'autre. Donc le Parlement a une attitude différente de celle de la Commission. La Commission a décidé d'une pause à la suite de cette opération, mais elle ne l'a pas justifiée comme une sanction à ce qui se passait, mais plutôt, c'était l'argument de Mme Ferrero-Waldner, c'était de dire, Israël étant occupé à quelque chose qui est important pour lui, nous remettons à plus tard ces discussions. Donc il n'y a pas eu du tout une mobilisation contre.
Mohamed Zahoui, quel regard vous portez sur l'action ou l'inaction, comme on voudra, enfin, oui, la politique suivie par l'Union européenne?
D'abord, moi je ne dis pas opération, je dis agression. Je ne suis pas pas militant d'une cause, je suis journaliste et j'emploie d'autres termes et des vocabulaires différents que la presse ici. Parce qu'on a présenté toujours, quand je dis la presse, c'est pas toute la presse, hein. Il y a une diversité dans la presse française, dans la presse. J'étais en train de lire tout à l'heure le Courrier International. Il y a des articles intéressants et qui disent que cette agression est préparée depuis 6 mois. Il y a eu des visites de...
Je crois que même la presse israélienne le dit, hein.
Oui, mais il y a des visites des ministres israéliens en France, en Égypte, etc. Et le problème, on a dévoilé le mensonge d'Israël. C'est-à-dire ce mensonge qui présente que la guerre est entre Israël et Hamas, c'est faux.
Je reviens à ma question. Ouais. Votre opinion sur la façon dont les pays européens et l'Union européenne en tant que telle a fait face à cette situation?
D'abord, si je parle de l'Europe ou de la France parce que je suis correspondant en France, je vois les Français qui manifestent. Je vois le Parti communiste, l'extrême gauche, les Verts qui ont manifesté.
Mais enfin, l'UMP et le Parti socialiste, voilà, qui sont les deux grands partis de gouvernement, sont assez divisés.
Parce qu'ils disent que c'est un peu difficile pour eux d'entendre des voix. Alors, il y a des organisations juives et associations qui sont pour la paix et qui ont manifesté. Pour l'Union européenne, elle reste toujours... C'est un peu humiliant aussi de dire, voilà, on va donner à quoi manger, etc. Ils sont restés toujours des donneurs au lieu d'être et de prendre une place dans la négociation, dans le règlement du conflit, etc. Je pense qu'il y a eu quelque part une complicité avec de lancer cette guerre. Voilà.
Diane Galliot, c'est aussi ce qu'on pense à Beyrouth, d'après les journaux, les radios, les télévisions que vous lisez, que vous entendez, que vous voyez?
Oui, tout à fait. Ici aussi, il n'y a pas le même vocabulaire, surtout, qui est employé par rapport aux médias occidentaux. Ici, dès le début, on n'a pas parlé d'offensive, par exemple. On a parlé d'agression et dès le début, on a parlé, je l'ai dit dans mes papiers, d'ailleurs, on a parlé de guerre.
Et les images ne sont pas les mêmes non plus.
Et les images ne sont pas du tout les mêmes, ni le vocabulaire, ni les images. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que il y a une distinction, et c'est vraiment intéressant de le noter, il y a une distinction entre ce que font les dirigeants occidentaux et ce que font la rue occidentale. On a tout de suite mis en avant les manifestations de soutien au peuple palestinien, pas simplement à Paris, d'une manière générale dans les capitales occidentales. Et ça aussi, on me l'a dit dans les différents reportages que j'ai pu faire, pas simplement dans le sud, mais ici aussi à Beyrouth. Les gens me l'ont dit là aussi dans les différentes confessions, hein, que ce soit chrétienne ou musulmane. Oui, on sent bien que en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, les gens soutiennent ce qui se passe à Gaza dans la rue, mais vos dirigeants ne font rien. Vos dirigeants ne font rien. Le Parlement européen, la Commission européenne, et bien sûr, les gens mélangent. Hein, je reconnais que... Mais en tout cas, vous, les dirigeants occidentaux, ne font rien, mais les peuples européens nous soutiennent ce qui se passe à Gaza. C'est un petit peu ce que les gens ressentent ici, ce qu'on appelle la rue arabe, si vous voulez, dans notre vocable occidental. C'est que les gens ont le sentiment qu'ils sont soutenus par les populations en Europe, mais pas par les dirigeants en Europe, et bien évidemment l'incapacité des Nations Unies est en perpétuellement mise en avant, et bien évidemment on se souvient qu'en 2006 le Conseil de sécurité des Nations Unies avait été impuissant à faire stopper l'agression israélienne dans la guerre entre Israël et le Hezbollah.
Gilles Paris, sur le plan politique, le Hamas souffre de ces attaques dans la mesure où ses infrastructures sont très sérieusement touchées, pas seulement elles, mais quand même que certains de ses dirigeants ont été tués. Parmi les principaux, je pense au ministre de l'Intérieur qui a été tué dans la journée de jeudi, qui avait la haute main sur les forces de sécurité. Et en même temps, beaucoup disent que la conséquence, probablement pas voulue par Israël, mais de cette offensive, c'est qu'on installe d'une manière ou d'une autre le Hamas comme partenaire, puisqu'il faudra bien conclure, cette fois plus officiellement qu'avant, une sorte de cessez-le-feu durable avec le Hamas.
Oui, ce sera nécessairement un bilan mitigé pour le Hamas lorsque le moment sera venu de le dresser. C'est sûr que sa mainmise sur Gaza sera remise en cause dans une certaine mesure par cette opération israélienne, compte tenu de ce qu'elle a représenté pour la population de Gaza, compte tenu aussi de ses pertes militaires, bon, sur lesquelles on a pratiquement pas d'informations, il faut être clair, mais perte aussi politique. Au moins deux hauts responsables ont été tués dans des raids. Et en même temps, on sait bien, justement à propos de ces pertes de responsables, que le Hamas a su toujours s'en accommoder. En 2004, en l'espace d'un mois, le Hamas a perdu son chef spirituel, Ahmed Yassine, et son successeur immédiat, Abdelaziz Al-Rantizi. Et moins de deux ans plus tard, il remportait les élections législatives après avoir remporté un nombre considérable de municipalités. Donc le Hamas a la capacité de traverser la crise. Ce qui est frappant, à contrario, c'est l'absence du Fatah. C'est la première guerre contre Israël où le Fatah est absent. C'est-à-dire qu'en 2001-2002, quand la deuxième intifada est devenue très très violente et très meurtrière, le Fatah a combattu, a essayé de rivaliser avec le Hamas sur le terrain armé, qu'il s'agisse d'opérations militaires ou d'opérations terroristes. Et là, le Fatah est absent et il aura bien du mal, à mon avis, en dépit du soutien international qui continue à profiter au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, le Fatah aura bien du mal à tirer son épingle du jeu.
Vous partagez cet avis, Mohamed Zawi?
Oui, justement, on a tué Fatah avec tout ce qui s'est passé. Maintenant, je m'interroge aussi sur le conflit entre Fatah et Hamas. Est-ce que ce n'est pas un conflit qui a été alimenté par Israël, par créer cette confusion, créer ces problèmes dans la rue, créer pour lieu de renforcer l'unité palestinienne?
Alors, c'est certain qu'Israël n'a pas cherché à renforcer l'unité palestinienne.
Voilà, exactement. Donc, le Hamas n'est pas perdant dans cette guerre. Le Hamas, ça va renforcer Hamas sur le plan international.
Bien vous comprendre, le Hamas va être affaibli, mais il sera gagnant parce qu'il sera moins affaibli que les autres, c'est ça?
Oui, politiquement. Mais le problème, c'est pas Hamas. Il y a eu combien de morts? Il y a eu plus de 1300 morts. Malheureusement, qu'ici, on ne regarde pas les images. Il y a des agences audiovisuelles comme Ramatan qu'on n'utilise pas ces images. Il y a des chaînes de télévision satellitaires, on n'utilise pas leurs images parce que c'est des images qui proviennent des Arabes.
Moi, je vois ces images sur la télévision française aussi. Hein.
Pas assez, vraiment. Pas assez. Quand il y a eu la neige, on a parlé plus de la neige pendant un quart d'heure dans une chaîne de télévision alors qu'il y a eu bombardement à Gaza. C'est triste et c'est terrible.
Diane Galliot, du point de vue israélien, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit peu le pendant de ce qui s'est passé il y a deux ans avec le Liban. D'un côté, il y avait le Hezbollah, ici, il y a le Hamas. Or, les deux mouvements, bien que l'un étant chiite et l'autre sunnite, ont une certaine coopération, coordination, certains des mêmes soutiens. Et vous avez rencontré le représentant du Hamas à Beyrouth.
Complètement, et c'est un personnage qui compte et qui monte aussi, c'est Oussama Hamdan. Il nous a reçus d'ailleurs en plein cœur du fief du Hezbollah, à côté de la grande mosquée de Cheikh Fadlallah. C'est un personnage qui compte et je rejoins ce que disaient mes deux prédécesseurs, à savoir que ici le Fatah est très divisé, alors que le Hamas est uni. Oussama Hamdan dépasse en envergure son simple rôle au Liban, et c'est un personnage qui va compter au-delà de son simple rôle au Liban. Il est soutenu par le Hezbollah et il a un discours qui ressemble un peu à celui du Hezbollah, c'est-à-dire que c'est un discours très très pesé, très très politique, très consensuel et à mon avis il va compter dans les jours qui viennent, vous le verrez, et je pense que son alliance avec le Hezbollah qui est déjà entérinée, si vous voulez, va dans les jours qui viennent, et en fonction de ce qui va se passer sur le terrain à Gaza et ici au Liban, et aussi dans le fait que le Hezbollah n'est pas intervenu mais a soutenu le Hamas politiquement, je pense qu'il va y avoir des clés politiques qui vont se jouer dans les jours qui viennent et qui vont être très intéressantes à décrypter.
Merci Diane Galliot, envoyée spéciale permanente de RFI à Beyrouth pour la région du Moyen-Orient. Merci également à Gilles Paris du journal Le Monde et à Mohamed Zawi, correspondant à Paris de la radio algérienne. Cette émission a été réalisée par Jean Legrand, Nicolas Doro était à la technique. Vous pouvez la réécouter sur le site internet de RFI www.rfi.fr à la rubrique émission, et vous pouvez nous écrire à orient.presse@rfi.fr. À la semaine prochaine.